Et à 7h30, c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Vacances, j'oublie tout. Mais avant cela, il va falloir se tordre les méninges pour savoir où partir cet été en fonction des contraintes sanitaires des pays. Le point dans un instant avec Mathilde Vinceneux. Fini le certificat d'aptitude au sport pour les jeunes. Un simple questionnaire sera désormais nécessaire. L'idée du gouvernement est de remettre au plus vite les jeunes à la pratique sportive après ces mois d'abstinence dus à la pandémie. Nous irons dans Journal en Israël. De nouveau heure la nuit dernière à Jérusalem-Est. Et puis Rafael Nadal est-il en fin de carrière? L'immense champion a été sorti en quart de finale lors de ses deux derniers tournois. Faut-il s'inquiéter à 3 semaines de Roland-Garros?
Et puis les invités de la matinale. À 8h10, Patricia Martin, vous recevrez
Lise Barnéou, elle est journaliste scientifique et elle publie un livre intitulé « Vaccins, petit guide par temps de Covid » qui est paru aux éditions Premier Parallèle.
Et à 8h20, on va parler de nos mères avec Aldo Naouri qui est pédiatre et écrivain. Il vient d'écrire Ma mère, mon analyse et la sienne. Et puis notre consoeur de France Inter, Eva Bétan, pour son livre Le goût de nos mères.
France Inter.
Et donc cette question pour ouvrir le journal, où partir cet été? Grande question Laurence.
Le gouvernement publiera à la fin du mois une carte et une liste avec une classification tricolore des pays en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid sur place. Il y aura les pays verts, orange ou rouge, c'est ce qu'a précisé le secrétaire d'État chargé du tourisme Jean-Baptiste Lemoine. Les Français commencent donc à se projeter pour les vacances, les réservations reprennent pour voyager en France ou à l'étranger, mais il va falloir s'adapter en fonction des contraintes locales. Petit tour d'horizon des pays accessible à ce jour sans période d'isolement obligatoire avec Mathilde Vinceneux.
Sans surprise, ce sont les pays touristiques du sud de l'Europe qui imposent le moins de contraintes. En Espagne, aux Canaries, un formulaire à remplir et un test PCR suffisent. Mais attention aux restrictions régionales. À Madrid, par exemple, les restaurants ferment à 23h, alors qu'en Catalogne, c'est 17h. Tout près, au Portugal, pas de tourisme autorisé pour l'instant, sauf pour les îles de Madère et des Açores, avec test PCR. Test PCR aussi pour la Grèce, la Croatie et Malte. Pour franchir les frontières de l'Europe, on en saura un peu plus dans les prochains jours. René-Marc Chicly est le président du CETO, le syndicat des entreprises de tour operating.
L'espoir, c'est la réouverture des frontières internationales le 9 juin. Pouvoir aller peut-être aux États-Unis, l'Amérique du Nord, les Caraïbes, voir d'autres destinations dans l'océan Indien et une partie de l'Asie. Mais pour l'instant, on est dans l'attente, on n'a pas suffisamment d'informations.
Même attente pour les Dom-Tom, les Antilles, la Réunion, pour le Maghreb aussi, la Tunisie, le Maroc. Mais il est possible de réserver dès maintenant, insiste le président du CETO. Les conditions sont flexibles, avec des remboursements ou des reports si la situation sanitaire ne permet pas de partir.
Mathilde Vinceneux, reprise du tourisme et reprise du sport particulièrement impactée par la pandémie et surtout pour les jeunes. Alors pour faciliter, simplifier l'accès des enfants à un club ou une association sportive, plus besoin de certificat médical pour les mineurs. Il suffira de remplir un questionnaire équivalent à une attestation parentale pour renouveler une licence ou en prendre une. Un décret en ce sens est paru hier au journal officiel. Le suivi médical des mineurs n'est pas négligé pour autant puisque l'assurance maladie a renforcé le nombre de consultations prises en charge jusqu'à 18 ans. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Véronique Lebar. Elle est médecin du sport et présidente de l'association Comité éthique et sport. Elle est au micro de Victor Maté.
Les questionnaires seront remplis par les parents, donc par définition, pour la plupart, ils ne seront pas médecins, ils n'auront pas examiné leur enfant avec un œil médical, donc ils mettront exactement ce qu'ils voudront.
Pour quel sport très pratiqué est-ce qu'il faudrait absolument, selon vous, maintenir ces certificats médicaux?
Honnêtement, tous les sports. Tous les sports, sans exception. Quand on a une pathologie cardiaque, vous voyez très bien, on voit régulièrement des footballeurs qui meurent sur le terrain, footballeurs ou autre sport évidemment. Parfois, on passe à travers les mailles du filet et on ne voit pas ces pathologies cardiaques et ça peut aboutir à des morts subies sur le terrain. Pourquoi mettre en danger nos enfants alors qu'on essaie de protéger la santé des sportifs de haut niveau ou des sportifs professionnels? Enfin, je m'interroge vraiment sur cette question.
À l'étranger, plusieurs attentats à la bombe dans un quartier de Kaboul, devant une école. 50 morts, une centaine de blessés selon un dernier bilan. La plupart des victimes sont des enfants. Les explosions se sont produites dans l'ouest de la capitale afghane, alors que les habitants faisaient leurs courses à l'approche de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr, qui marque la semaine prochaine la fin du Ramadan. Ces attentats n'ont pas été revendiqués. Le président afghan les attribue aux talibans, ce qu'il nie. Reste que ces attentats interviennent alors que l'armée américaine poursuit le retrait de ses derniers soldats de ce pays déchiré par 20 ans de conflit. Plus de 90 blessés à Jérusalem-Est hier soir. De nouvelles violences entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. Dans la foulée de ces violences, une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza vers Israël, qui a annoncé avoir frappé des positions du mouvement islamiste le Hamas dans l'enclave palestinienne. Le quartet pour le Proche-Orient, Nations Unies, Russie, Union Européenne, États-Unis appelle Israël à faire preuve de retenue. Et ce qui a en partie déclenché ces violences, ce sont les expulsions imminentes de 4 familles palestiniennes. La bataille judiciaire dure depuis plus de 50 ans pour ces réfugiés palestiniens. Chassés de chez eux en 1948, ils ont pu devenir propriétaires en vertu d'un accord avec l'ONU et avec les Jordaniens pour les réfugiés palestiniens. Mais des associations de colons israéliens réclament leur droit au retour. Et cela fait 2 semaines maintenant que les soutiens à ces familles sont violemment réprimés par les forces de l'ordre. Reportage dans ce quartier proche de la vieille ville d'Alice Froussard.
Dans cette rue de Sharjara, il y a ces panneaux de soutien aux familles. Cette odeur fétide, celle des eaux usées que les forces israéliennes lancent sur les manifestants palestiniens tous les soirs et les chaises en plastique lancées ça et là par les colons qui ont déjà accaparé la maison d'en face. Étoiles de David et drapeaux israéliens sur la façade. Il y a surtout cette solidarité, celle des Palestiniens autour des habitants menacés d'expulsion comme Nabil Al-Kord, 70 ans.
Tous mes souvenirs sont ici. Mon enfance, mon adolescence, le mariage de mes enfants était ici. Chaque pierre de cette maison est une part de mon histoire.
Tawfik Jaouni, 28 ans, habitant le quartier, lui aussi l'assure. Cette bataille judiciaire et politique.
On a tous les papiers. Pourtant, on se bat au tribunal depuis 1972 contre les Israéliens. Et honnêtement, leurs lois sont prêtes à tout pour donner toutes ces maisons aux colons.
Alors, face à l'absence d'intervention internationale et la violence des forces israéliennes chaque soir contre les manifestants, la seule solution, c'est la mobilisation, explique Fayrouz Sharkawi, directrice de Grassroots Al-Quds, car l'espoir d'un verdict favorable est mince.
Le nettoyage ethnique des Palestiniens de Jérusalem fait partie de la politique israélienne. Donc ce serait naïf de croire qu'un juge israélien qui fait appliquer la loi israélienne protégera ces familles et empêchera l'expulsion de leur propre maison.
Les familles de Sharjara le précisent, si les colons s'emparent de leur maison, ces évictions continueront dans tout le quartier. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
Et sur ces expulsions, la Cour suprême doit rendre son verdict demain lundi.
L'actualité, Laurence, c'est aussi cette délicate opération de sauvetage depuis hier dans le Doubs après un accident de spéléologie.
Un homme, un spéléologue de 55 ans venu de Côte d'Or a fait une chute de 5 mètres dans le gouffre de Vauvougier à une vingtaine de kilomètres de Besançon. Il a passé la nuit sous terre et l'opération n'est pas terminée, Sophie Allemand.
Et oui, car l'homme se trouve à près de 70 mètres sous terre, à plus d'une heure et demie d'accès, depuis l'entrée du gouffre de Vauvougier qui contient au total 3 puits de 10 à 30 mètres. C'est donc là, en profondeur, que ce spéléologue, venu avec une équipe dijonnaise, est tombé. Il est sorti conscient de sa chute, mais blessé à la jambe et au dos, selon les secours sur place hier soir. Deux de ses camarades sont restés à ses côtés. Ils communiquent avec un médecin. La victime a reçu des vivres et des couvertures, mais le problème, c'est que la cavité est longue et extrêmement étroite. Il faut ainsi désobstruer le passage pour le faire sortir sur une civière. D'après la préfecture du Doubs, des explosifs pourraient être nécessaires. Les pompiers du groupe Grimpe, spécialistes des milieux périlleux, et des membres du secours spéléo français du Doubs ont donc passé la nuit sur place. L'opération pourrait durer près de 24 heures au total. Les premières estimations mises sur une sortie du gouffre à midi. Au moins.
Sophie Allemand de France Bleu Besançon. Il y en a un autre qui est au fond du trou, c'est Rafael Nadal. Le joueur enchaîne les défaites au niveau des quarts de finale, Monte Carlo, Madrid. Des contre-performances qui peuvent inquiéter à 3 semaines de Roland-Garros. Mais pour notre consultant tennis, Paul-Henri Mathieu, il ne faut jamais enterrer la légende espagnole qui a tout de même remporté 13 fois le tournoi parisien. Même lorsque Nadal est lui-même déçu par son propre niveau, Jérémy Janagro.
Après sa défaite en quart de finale face à Zverev vendredi, Rafael Nadal a eu des mots durs pour qualifier sa performance.
Je contrôlais le match au début, j'ai bien joué pendant 6 jeux, probablement mieux que lui. Et ensuite, au moment de servir à la fin du set, j'ai été catastrophique. Pourtant, je m'attendais à ce que Zverev joue à ce niveau, je n'ai pas été surpris.
Pour l'ancien tennisman français Paul-Henri Mathieu, aucune raison d'être inquiet pour l'Espagnol, surtout vu les circonstances de sa défaite.
manque peut-être encore un petit peu de rythme. Et attention, c'est à Madrid, les conditions, elles sont vraiment différentes. Les cours sont beaucoup plus rapides. Il suffit qu'il soit un petit peu moins en confiance et pour que le match lui échappe un petit peu.
Et pour l'ancien numéro 12 au classement mondial, ce n'est pas la première fois que Nadal se présente à Roland-Garros dans une forme incertaine.
Et ça avait été le cas aussi l'année dernière, avant Roland-Garros. On se posait beaucoup de questions sur son état de forme et ce qu'il va pouvoir bien performé à Roland-Garros. Et aujourd'hui, il a gagné 13 fois à Roland-Garros. J'ai envie de dire que tant qu'il disputera Roland-Garros, ce sera lui le favori.
Rendez-vous du 24 mai au 13 juin pour Roland-Garros. Raphaël Nadal aura lui un dernier test avant les internationaux de France. Ce sera la semaine prochaine sur terre battue à Rome.
Jérémy Janagro.
Dans le journal de Laurence Thomas, le temps de ce dimanche.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et attention à ces forts orages cet après-midi dans le sud-est, Jean-Michel Gonaski.
Le sud-ouest, plus particulièrement cet après-midi, donc de forts orages sont prévus, notamment sur le sud de l'Aquitaine. Alors, exception faite de la pointe bretonne, il sera difficile d'échapper aux averses et aux orages aujourd'hui sur la moitié ouest du pays, plus particulièrement entre les Pyrénées, le nord de la Seine et le Pays Rennais. En fin d'après-midi, des orages violents vont se déclencher sur la partie ouest des Pyrénées, ainsi que sur le Poitou-Charentes et sur le Limousin, avec de la grêle, de violentes pluies et bourrasques sur les 10 départements de ce quart sud-ouest placés en vigilance orange. Dans le golfe du Lion, des entrées maritimes vont donner une ambiance plutôt maussade, tandis que sur les régions de l'Est, les orages et les pluies seront pour demain. Alors cet après-midi, dans un flux de secteur sud partout bien marqué, voire fort sur les Pyrénées, le Massif central, le Val-de-Saône, la vallée du Rhône, également dans le secteur de l'Otan, les températures hors saison vont évoluer entre 24 et 28 degrés.
Ces orages donc aujourd'hui dans le sud-ouest, j'ai bien compris. Jean-Michel Golinski, Météo France.